Chapitre 6. Le porte au loin. Quand Madame Wesley vint le réveiller en lui secouant l'épaule, Harry eut l'impression qu'il venait tout juste de se coucher.
« C'est l'heure d'y aller, Harry, mon chéri, » murmura-t-elle avant d'aller réveiller Ron.
Harry chercha ses lunettes à tâtons, les mit sur son nez et se redressa dans son lit. Dehors, il faisait encore nuit. Ron marmonna quelque chose d'indistinct lorsque sa mère le tira du sommeil. Au pied de son lit, Harry vit deux grandes silhouettes échevelées qui émergeaient d'un enchevêtrement de couverture.
« Déjà l'heure ?» dit Fred d'une voix ensommeillée.
Ils s'habillèrent en silence, trop endormis pour parler, puis bâillant et s'étirant. Ils descendirent tous les quatre dans la cuisine. Madame Wesley remuait le contenu d'une grande marmite posée sur la cuisinière, pendant que M. Wesley, assis à la table, examinait une liasse de billets d'entrée imprimés sur de grands parchemins. Il leva la tête à l'arrivée des quatre garçons et écarta les bras pour qu'ils puissent mieux voir ses vêtements. Il portait un chandail de golf et un très vieux jean, un peu trop grand pour lui, retenu par une épaisse ceinture de cuir.
« Qu'est-ce que vous en pensez ? »
demanda-t-il d'un ton anxieux.
« Il ne faut surtout pas qu'on se fasse remarquer. Est-ce que j'ai l'air d'un moldu, Harry ?»«
Oui, » répondit Harry avec un sourire. « C'est très bien. »«
Où sont Bill, Charlie et Percy hein ?»
demanda George dans un très long bâillement qu'il lui fut impossible de retenir.
« Ils doivent transplaner, non ?» répondit Madame Wesley en apportant sur la table une grosse marmite de porridge qu'elle commença à servir. « Ils peuvent donc rester un peu plus longtemps au lit. » Transplaner signifiait disparaître d'un endroit pour réapparaître presque instantanément dans un autre, et Harry savait que c'était un exercice très difficile.
« Alors ils dorment encore ? » dit Fred d'un ton grincheux en ramenant vers lui son bol de porridge. « Et pourquoi on ne pourrait pas transplaner nous aussi ?»
« Parce que vous n'êtes pas encore majeur et que vous n'avez pas passé votre permis, » répliqua sèchement Madame Wesley. « Où sont les filles ?»
Elle sortit en trompe de la cuisine et ils l'entendirent monter l'escalier.
« Il faut passer un permis pour avoir le droit de transplaner ?» demanda Harry.
« Ah, oui !»
répondit M. Wesley en rangeant soigneusement ses billets d'entrée dans la poche arrière de son jean. « Le département des transports magiques a infligé une amende à deux personnes l'autre jour pour avoir transplané sans permis. C'est pas facile, le transplanage. Et quand on le fait pas convenablement, il peut y avoir de terribles complications. Les deux dont je viens de parler se sont désarticulés. » Autour de la table, tout le monde, sauf Harry, fit la grimace.
« Désarticulés ?» répéta Harry.
« Oui, bah, ils ont laissé la moitié de leur corps derrière eux, » expliqua M. Wesley en versant de grandes cuillerées de mélasse sur son porridge. « Et donc, ils sont restés coincés. Ils pouvaient plus bouger, ni dans un sens, ni dans l'autre. Ils ont dû attendre que la brigade de réparation des accidents de sorcellerie remette tout ça en place. Si vous saviez le travail qu'on a eu avec tous les moldus qui avaient vu des morceaux de leur corps traîner par terre. Ah !»
Harry eut la soudaine vision d'une paire de jambes et d'un globe oculaire abandonné sur le trottoir de Private Drive.
« Et ils s'en sont remis ?»
demanda-t-il un peu ébranlé.
« Oh oui !» répondit M. Wesley d'un ton dégagé. « Mais ils ont eu une lourde amende et je crois qu'ils ne sont pas prêts de recommencer. Il ne faut pas plaisanter avec le transplanage. Il y a beaucoup de sorciers expérimentés qui ne s'y risquent pas. Ils préfèrent les balais. C'est plus lent, mais plus sûr. »
« Et Bill, Charlie et Percy savent le faire ?»«
Charlie a dû repasser son permis, » dit Fred avec un sourire. « Il l'a raté la première fois. Il a transplané 8 kilomètres plus au sud que l'endroit prévu sur la tête d'une pauvre femme qui faisait ses courses. Vous vous souvenez ?»«
Oui, et alors ?»«
Il l'a réussi la deuxième fois, » dit Madame Wesley en revenant dans la cuisine au milieu de ricanements sonores.
« Percy l'a passé il y a 15 jours seulement, » dit Georges. Depuis, chaque matin, il descend l'escalier en transplanant pour bien montrer qu'il sait le faire.
Des pas retentirent dans le couloir et Hermione entra dans la cuisine en compagnie de Ginny. Toutes deux avaient le teint pâle et paraissait encore endormi. Ginny vint s'asseoir à la table en se frottant les yeux.
« Pourquoi se lever si tôt ?»«
Il va falloir faire un bout de chemin à pied, » répondit M. Wesley.
« À pied ?» s'étonna Harry. « On va marcher pour aller à la Coupe du Monde. »«
Oh non, c'est trop loin, » dit M. Wesley avec un sourire. « Nous n'aurons pas longtemps à marcher, simplement. Quand un grand nombre de sorciers se réunissent, il est très difficile de ne pas attirer l'attention des moldus. » Nous devons faire très attention à la façon dont nous nous déplaçons et lorsqu'il s'agit d'un événement aussi important que la Coupe du Monde de Quidditch,
George, s'écria brusquement Madame Wesley en faisant sursauter tout le monde. « Quoi ?» dit George d'un ton innocent qui ne trompa personne. « Qu'est-ce que tu as dans ta poche ?»«
Rien.
Ne me mens pas. »
Madame Wesley pointa sa baguette magique.
« Accio !»
dit-elle
Aussitôt, de petits objets aux couleurs brillantes s'envolèrent de la poche de Georges qui essaya de les rattraper, mais rata son coup. Le contenu de sa poche atterrit directement dans la main tendue de Madame Wesley.
« Nous t'avions dit de les détruire !»
s'exclama Madame Wesley avec fureur, tenant au creux de sa paume une poignée de pralines longue-langue.
« Nous t'avions dit de te débarrasser de tout ça! Videz vos poches, tous les deux! Allez, 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 dépêchez-vous !»
La scène fut un peu pénible. De toute évidence, les jumeaux avaient essayé d'emporter avec eux le plus grand nombre possible de pralines, et Madame Wesley dut avoir recours plusieurs fois au sortilège d'attraction pour les récupérer toutes.
« Atcho, atcho, atcho !»
s'écria-t-elle. Les pralines longues-langues surgirent de toutes sortes d'endroits inattendus, y compris la doublure de la veste de Georges et les revers du jean de Fred.
« On a passé 6 mois à les mettre au point !» s'exclama Fred à l'adresse de sa mère qui jetait impitoyablement les pralines à la poubelle. « Vous n'avez rien d'autre à faire pendant ces 6 mois ?»«
Pas étonnant que vous n'ayez pas obtenu davantage de buses !» L'atmosphère n'était guère chaleureuse quand ils se mirent en chemin. Madame Wesley avait toujours l'air furieux lorsqu'elle embrassa M. Wesley sur la joue, mais pas autant que les jumeaux, qui mirent leur sac à l'épaule et s'en allèrent sans lui dire un mot.
« Amusez-vous bien, » lança Madame Wesley, « et ne faites pas de bêtises, » ajouta-t-elle dans le dos des jumeaux qui s'éloignèrent sans se retourner. « Je t'enverrai Bill, Charlie et Percy vers midi, » ajouta Madame Wesley à l'adresse de son mari.
Celui-ci, accompagné de Harry, Ron, Hermione et Ginny, emboîta le pas de Fred et George, qui traversaient le jardin encore plongé dans l'obscurité. Il faisait frais, et la lune était toujours visible. Seule une lueur verdâtre le long de l'horizon qui s'étendait à leur droite indiquait l'imminence de l'aube. Harry, qui pensait aux milliers de sorciers en route pour la Coupe du Monde de Quidditch, rejoignit M. Wesley et marcha à côté de lui. « Comment doit-on s'y prendre pour éviter que les moldus nous remarquent ? » demanda-t-il.
« Nous avons dû faire face à un énorme problème d'organisation, » soupira M. Wesley. Il faut savoir qu'il y a environ 100 000 sorciers qui viennent assister à la coupe. Et bien entendu, nous ne disposons pas de terrain magique suffisamment grand pour les loger tous. Il y a des endroits où les moldus ne peuvent pénétrer, mais imagine qu'on essaie d'entasser 100 000 sorciers sur le chemin de traverse ou le quai 9¾. Nous devions donc trouver une jolie petite lande déserte et prendre toutes les précautions anti-moldus possibles. Le ministère y a travaillé pendant des mois. Alors, il faut canaliser les arrivées. Les spectateurs munis de billets les moins chers doivent arriver 2 semaines à l'avance. Quelques-uns utilisent des moyens de transport moldus, mais nous ne pouvons pas les laisser remplir leurs bus et leurs trains en trop grand nombre. Souviens-toi que les sorciers viennent du monde entier. Certains transplanent, bien entendu. Mais nous devons aménager des endroits sûrs où ils puissent réapparaître à l'écart des moldus. Je crois qu'ils ont trouvé un petit bois très pratique pour accueillir les transplaneurs. Pour ceux qui ne veulent ou ne peuvent transplaner, nous utilisons des portes au loin. Ce sont des objets qui permettent de transporter les sorciers d'un point à un autre à une heure fixée d'avance. On peut organiser des transports de groupe si nécessaire. 200 portes au loin ont été disposées dans des lieux stratégiques un peu partout en Grande-Bretagne et le plus proche, pour nous, se trouve sur la colline de Tétafouine. C'est là que nous allons.
Monsieur Wesley montra du doigt une grosse masse noire qui s'élevait au-delà du village de Loutry-Sainte-Chasse-Poul.
« À quoi ressemblent les portes au loin ?» demanda Harry avec curiosité.
« Oh, il peut s'agir de n'importe quoi, » répondit M. Wesley. « Des choses qui passent inaperçues, bien sûr, pour que les moldus ne les remarquent pas et ne se mettent pas à jouer avec. Il faut des objets qui aient l'air d'être bons pour la décharge publique. »
Ils suivirent le chemin sombre et humide qui menait au village. Seul le bruit de leurs pas rompait le silence. Lorsqu'ils traversèrent le village endormi, le ciel commença lentement à s'éclaircir, passant d'un noir d'encre à un bleu foncé. Les pieds et les mains de Harry étaient glacés. Monsieur Wesley ne cessait de consulter sa montre. Ils avancèrent en silence, économisant leur souffle, pour escalader la colline de Tétafouine. De temps à autre, un terrier de lapin les faisait trébucher, où ils glissaient sur d'épaisses touffes d'herbe noire. À chaque respiration, Harry sentait comme un élancement dans sa poitrine, et ses jambes commençaient à s'engourdir, lorsqu'enfin, ils atteignirent un terrain plat.
« Ouf !»
soupira M. Wesley, le souffle haletant. Il retira ses lunettes et les essuya sur son chandail. « Nous avons fait vite, » dit-il. « Il nous reste 10 minutes. » Hermione fut la dernière à atteindre le sommet de la colline, une main sur son point de côté.
« Il ne nous reste plus qu'à trouver le port au loin, » dit M. Wesley, qui remit ses lunettes et scruta le sol autour de lui.
« Il ne devrait pas être très gros. Venez. »
Ils se séparèrent pour chercher chacun de son côté, mais au bout de 2 minutes, un grand cri retentit dans le silence.
« Par ici, Arthur !»
Par ici, mon vieux ! On l'a trouvé !
Deux hautes silhouettes se découpaient contre le ciel étoilé de l'autre côté du sommet.
« Amos !»
s'exclama M. Wesley. Avec un grand sourire, il s'avança vers l'homme qui venait de crier. Les autres lui emboîtèrent le pas. M. Wesley serra la main d'un sorcier au teint rubicon avec une barbe brune en broussaille. Dans son autre main, il tenait une vieille botte moisie.
« Je vous présente Amos Diggory !» dit M. Wesley. « Il travaille au département de contrôle et de régulation des créatures magiques. Je crois que vous connaissez son fils, Cédric. »
Cédric Diggory était un garçon de 17 ans au physique avantageux. Il était capitaine et attrapeur de l'équipe de Quidditch de Poufsouffle à Poudlard. « Salut !» dit Cédric en se tournant vers eux. Tout le monde répondit sauf Fred et George qui se contentèrent d'un signe de tête. Ils n'avaient jamais vraiment pardonné à Cédric d'avoir battu leur équipe de Gryffondor au cours du premier match de Quidditch de l'année précédente.
« Tu as beaucoup marché pour venir jusqu'ici, Arthur ?»
demanda le père de Cédric.
« Pas trop, non, » répondit M. Wesley. « Nous habitons de l'autre côté du village. Et toi ?»«
Nous avons dû nous lever à 2 heures du matin, pas vrai, Céd ?»«
Je peux te dire que je serai content quand il aura son permis de transplaner. Enfin, faut pas se plaindre. Vous n'aurez pas manqué la Coupe du Monde de Quidditch, même pour un sac de galions. Et c'est à peu près ce que coûtent les billets d'entrée. Mais ça aurait pu être pire. »
Amos Diggory tourna un regard bienveillant vers les trois fils Wesley, Harry, Hermione et Ginny.
« Sont tous à toi, Arthur ?» demanda-t-il.
« Oh non, 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 seulement les rouquins, » répondit M. Wesley en montrant ses enfants. « Voici Hermione, une amie de Ron, et Harry, un autre ami. »«
Par la barbe de Merlin !» s'exclama Amos Diggory, les yeux écarquillés. « Harry ? Harry Potter ?»«
Oui, » dit Harry. Harry avait l'habitude qu'on l'observe avec curiosité, l'habitude aussi de voir les regards se tourner vers la cicatrice qu'il avait au front. Mais chaque fois, il en éprouvait un certain malaise.
« C'est de m'a parlé de toi, bien sûr, » reprit Amos Diggory. « Il nous a raconté qu'il avait joué contre toi l'année dernière. Je lui ai dit, « Céd, ça, c'est quelque chose que tu pourras raconter à tes petits-enfants, que t'as battu Harry Potter. Battu Harry Potter !»
Harry ne sut quoi répondre et préféra demeurer silencieux. Fred et George se renfrognèrent à nouveau. Cédric sembla un peu gêné.
« Harry est tombé de son balai, papa, » marmonna-t-il. « Je te l'ai déjà dit, c'était un accident. »«
Oui, mais toi, t'es pas tombé !»
s'exclama Amos d'un ton jovial en donnant une tape dans le dos de son fils.
« Toujours modeste, notre Céd, toujours très gentleman. Mais c'est le meilleur qui a gagné. Je suis sûr que Harry dirait la même chose, n'est-ce pas ? L'un tombe de son balai, l'autre y reste bien accroché. Pas besoin d'être un génie pour savoir quel est celui qui sait le mieux voler. Hein ?»«
Il doit être presque l'heure, » dit précipitamment M. Wesley en regardant une nouvelle fois sa montre. « Est-ce que tu sais si nous devons attendre quelqu'un d'autre, Amos ?»
« Non, les Lovegood sont déjà là-bas depuis une semaine et les Fawcett n'ont pas pu avoir de billets, » répondit M. Diggory.
« Il n'y a plus que nous dans ce secteur, n'est-ce pas ?»«
À ma connaissance, oui, »
dit M. Wesley.
« Le départ est prévu dans une minute, ferions bien d'y aller. » Il se tourna vers Harry et Hermione.
« Vous n'aurez qu'à toucher le porte-loin, c'est tout. Avec un doigt,
ça suffit. »
Gênés par leur énorme sac à dos, tous les neuf se regroupèrent tant bien que mal autour de la vieille botte que tenait toujours Amos Diggory. Ils s'étaient mis en cercle, coude à coude, frissonnant dans la brise fraîche qui soufflait sur la colline. Personne ne disait rien. Harry pensa qu'ils auraient l'air bien étranges si un moldu venait se promener par là et les surprenait dans cette posture. 9 personnes, dont 2 adultes, tenant une vieille botte racornie et attendant en silence dans la demi-obscurité de l'aube. « 3 », murmura M. Wesley, un œil toujours fixé sur sa montre. « 2 ». Ce fut immédiat. Harry eut l'impression qu'un crochet l'avait brusquement attrapé par le nombril en le tirant irrésistiblement en avant. Ses pieds avaient quitté le sol et il sentait la présence de Ron et Hermione à ses côtés, leurs épaules se cognant contre les siennes. Il filait droit devant dans un tourbillon de couleurs et un sifflement semblable à celui du vent. Son index s'était collé à la botte qui semblait l'attirer comme un aimant. Et soudain, ses pieds retombèrent brutalement sur le sol. Ron trébucha contre lui et le projeta par terre. Le porte-loin heurta le sol avec un bruit bat, tout près de sa tête. Harry leva les yeux. M. Wesley, M. Diggory et Cédric étaient toujours debout, échevelés, les vêtements froissés par le vent. Tous les autres étaient également là.
« Arrivé du 5h07 en provenance de la colline de Tétafouine, » dit une voix.